Nous sommes mercredi 19 avril 2017, il est 21h et un petit peu plus de 20 secondes, vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy.
Bonsoir.
Ça va être une émission un petit peu intimiste ce soir, nous ne sommes que trois. Il n'y a que quelques coussins qui nous séparent. Nous avons un lait fraise dans la main gauche et autre chose dans la main droite. Bientôt tu vas nous dire que t'es vegan. Et c'est quand même un peu.
Ah pourquoi pas.
Et féministe.
Je parle pas aux auditeurs.
Il mange que des graines. Bref. Ce soir, nous allons discuter du Nintendo Direct qui a eu lieu la semaine dernière, parce qu'en fait, ça a eu lieu juste après le Dojo Bar, ce qui est quand même intéressant. Vous avez une belle soirée de Nintendo, hein, le Dojo Bar en première partie de soirée, le Nintendo Direct en deuxième partie, bonne soirée sur France 3, j'ai envie de dire. Et voilà, ça l'a fait, et il y a eu quand même pas mal d'informations intéressantes dont on voudrait arriver à tirer la substantifique moelle dans l'émission de ce soir. Cette phrase était beaucoup trop longue, avec pas assez de pause, pas assez de virgule. Du coup, je vais passer la main pour le tour de table de l'actualité à Zergy, qui va nous parler de petites choses chez Nintendo.
Oui, alors la première petite chose, c'est l'arrêt de la NES Mini, du moins aux États-Unis, donc je pense que chez nous, ça va être pareil.
Bah, a priori, ça va être arrêté en Australie, et j'ai cru comprendre d'après Eurogamer qu'en Europe, c'était mal barré aussi. Je sais pas si ça a été confirmé officiellement ou si c'est juste une rumeur pour l'instant, mais voilà.
Mais c'est toujours un peu dommage que ça se vendait bien et ils auraient pu en vendre sur le long terme. Et mais ils ont l'air de ranquiller sur la Super NES Mini qui sortirait vers Noël prochain.
Du coup, pour faire à peu près le même coup que la NES Mini, sortir au mois de novembre, alors peut-être cette fois-ci avec un nombre suffisant, parce que c'est vrai que la NES Mini, c'est un peu
c'est peut-être pour ça qu'ils se préparent avant.
Bah, c'est-à-dire que ce serait bien de se préparer, d'arrêter de faire ça comme des putains d'amateurs pour une fois. Hein, parce que la NES Mini, c'était quand même assez lamentable de pas avoir vu venir le succès. Je suis désolé, c'était quand même. Enfin, je trouve.
Surtout à ce prix-là.
Surtout, bah oui. À 60€, ça pouvait être de l'achat impulsif, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que. Je comprends pas comment le marketing de Nintendo a pu se planter à ce point-là, à moins qu'il y ait eu un vrai problème de production, hein, ce qui est parfaitement possible. Mais voilà, par contre, Zergy, je sais pas ce que tu penses, mais de l'arrêt de la NES Mini, c'est vrai que c'est un peu dommage pour le long sell, qui est un peu une tradition chez Nintendo. À ton avis, pourquoi l'arrêt de production pièce
Non, je sais pas du tout. Enfin, à ce qui paraît, tu avais dit qu'il. Nintendo avait dit que ça serait un objet vendu temporairement, mais
bah,
bon,
oui,
je trouve ça un peu couillon, parce qu'ils auraient très bien pu avoir une gamme de petites consoles rétro, un peu pour arrondir les fins de mois, on va dire.
Oui, puis c'est quand même un objet assez culte, la NES, enfin je veux dire, la Famicom Mini est super mignonne, la NES Mini est super mignonne, suffit de la voir en vrai, c'est juste, c'est un objet qui en
c'est
lui-même est assez extraordinaire, c'est super choupi. Et c'est extrêmement fonctionnel, même si l'émulation n'est pas parfaite, c'est quand même vraiment pas mal. Alors c'est peut-être le fait qu'elle soit hackable à mort qui a freiné un peu Nintendo, mais je suis même pas sûr, parce qu'au final, le phénomène m'a l'air d'être quand même relativement limité.
Puis ça change pas grand-chose pour au final que ça hackable, enfin c'est une minorité qui jouerait tout de même par des moyens détournés, donc...
Oui,
ça prend plus un impact énorme.
Ça prend un impact énorme, et puis en plus, je veux dire, globalement, c'est toujours 60€ dans la poche de Nintendo, quoi.
En plus.
Je sais pas combien coûte à la fabrication la NES Mini, mais ça va quand même pas coûter grand-chose. Parce que c'est une board ARM avec un Linux dessus, et enfin voilà, c'est quand même pas grand-chose. Et donc, pour la Super NES Mini, Zergy, est-ce que tu as un pronostic sur les jeux? Parce qu'on va un peu s'amuser maintenant, même si c'est encore à l'état de rumeur.
Je sais pas, mais... Je pense que je vais la préco. non, je pense qu'il y aura les gros classiques. On aura à peu près la même ludothèque que sur la NES Mini.
Donc du Super Mario World, Super Mario World
Yoshi's
2,
Island.
Yoshi's Island. Du Metroid, du Super Metroid, ce serait quand même sacrément bon plan. Parce que c'est des jeux qui coûtent cher, mine de rien. Du Zelda. Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir comme jeu tiers, en fait, sur Super NES. Parce que c'est vrai que la NES Mini, ce qui était impressionnant, c'est que...
Castlevania 4.
Street 2.
Castlevania 4, Street quoi ? Street Fighter,
Fighter
2 ? Alors laquelle ? Super Street
toutes.
Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo ou Street Fighter 2 ?
Ça prend déjà 3 emplacements.
Est-ce que, à ton avis, ce serait à peu près le même prix ou parce que moi, je pense que 60 euros, c'était vraiment positionné très, 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 très bien.
Ouais, ah oui, oui. Enfin, le mieux, ça serait qu'effectivement, ça soit toujours entre 50 et 60 balles, quoi. Parce que plus les gens réfléchiraient, quoi. Ou
oui,
alors qu'on ait plus de jeux.
T'enlèves le côté achat un peu instinctif, enfin instinctif, pas instinctif, impulsif, dont on parlait. À 60 euros, c'est vrai que tu réfléchis pas beaucoup. Ça fait le prix d'un triple A, c'est le prix d'un jeu triple A, machin, pour avoir un très bel objet, relativement fonctionnel en plus.
Après, entre Zelda et la NES Mini, bon, je
choisis quand même Zelda. Ceci dit, si ils te mettent Street Fighter et qu'ils font un pack avec deux manettes, quitte à le vendre un chouïa plus cher.
Ah oui, à 80 balles, moi je prends.
C'est vrai que ce serait pas mal, hein. Ça commence à devenir tentant comme proposition. Maintenant, il faut que Capcom remplisse. Il me semble que Capcom avait produit pour la NES Mini, il y a du Mega Man 2, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Et il y aurait pas un autre jeu Capcom, genre Ghosts and Goblins, ou quelque chose comme ça, ou c'est moi qui trippe. Je me souviens plus de la liste exacte. Mais il y avait quand même. Enfin, moi, ce que je trouve étonnant sur NES Mini, c'est qu'il y avait quand même quelques éditeurs tiers. Je sais pas, il y a la moitié des jeux à peu près, c'est des éditeurs tiers. Qui doivent du coup toucher un peu de rond là-dessus, pas grand-chose à mon avis, mais ils doivent quand même toucher un peu de thunes. Est-ce que vous pensez qu'ils arriveront à faire rempiler, sachant que sur Super NES, il y a quand même des problèmes de droit un petit peu plus compliqués, il y a pas mal de jeux à licence qui pourront pas être mis non plus, il y a quelques licences un peu connues qui sont entre deux tombées dans l'escarcelle des uns et des autres. Je veux dire, ça va être difficile d'avoir Konami, par exemple, ce serait dommage de pas avoir Probotector ou Contra, j'ai l'impression que ça va être très compliqué.
Ce serait difficile, mais derrière, pour les éditeurs, c'est tout bénef. Derrière, enfin, ils ont quand même des royalties dessus. Et en plus, ça fait revivre partiellement une licence qui était un peu oubliée, surtout chez les jeunes qui n'ont pas du tout connu. Ça permet aussi de faire des pachinko chez Konami, hein, c'est toujours ça de prix pour eux. Donc, non, vraiment, je vois pas ce qui les empêche.
Je vois pas ce qui peut poser problème à faire des pachinko chez Konami. C'est complètement legit. Bref, je vais enchaîner sur le deuxième sujet d'actualité avant qu'on fasse une toute petite pause musicale. D'ailleurs, je vais charger la playlist maintenant, histoire de pas galérer dans deux secondes.
Alors, la question, aura-t-on une Nintendo 64 Mini ?
Alors, la Nintendo 64 Mini, c'est possible, mais ça me paraît quand même techniquement très compliqué à faire.
Pourquoi ? Oui, ça va être dur.
Alors,
c'est plus dur à émuler.
Exactement. Alors, il faut savoir que sur NES, les émulateurs, que ce soit les émulateurs commerciaux ou les émulateurs libres, libres de droit ou libres de code, sont extrêmement nombreux. D'ailleurs, a priori, Nintendo utilise FCEX, qui est un émulateur Linux assez connu, mais avec une palette personnalisée, c'est-à-dire qu'ils ont quand même fait quelques modifications sur le code de l'émulateur pour le faire tourner de manière, on va dire, un peu plus standard à ce qu'ils attendaient. On le sait parce que les mêmes bugs ont été trouvés dans l'émulateur. Il y a quelques bugs assez connus dans FCEX, et puis les mecs ont un peu décortiqué le truc, donc a priori c'est du FCEX. Sur Super NES c'est pareil, il y a quelques émulateurs bien connus qui fonctionnent très très bien sur des processeurs ARM pas chers, et il y a quand même de bonnes chances que ce soit un truc comme ça. La Nintendo 64, aujourd'hui, le seul projet qui tient à peu près la route pour un émulateur N64, c'est Project 64, qui n'existe, alors certes sous forme de logiciel libre, mais que sous Windows, dont les portages sous Linux sont extrêmement timides, et le deuxième émulateur qui marche pas trop mal, c'est Mupen 64 Plus, mais seulement la version evilly patched d'un autre projet qui s'appelle RetroArch. Et même là, il y a énormément de bugs, de ralentissements, de choses comme ça. C'est très compliqué d'arriver à émuler de la N64. C'est, en comparaison, beaucoup plus facile d'émuler une PlayStation, étonnamment. Je ne sais pas pourquoi, hein. Je ne porte pas de jugement de valeur.
Vu comment Dolphin s'avance, ils nous feront la GameCube Mini.
Effectivement, il y a plus de chances, à mon avis, de faire une GameCube Mini qu'une N64 Mini. Hein. Dans l'absolu... C'est un petit peu plus simple, parce que Dolphin, par contre, est très performant. Par contre, Dolphin est très gourmand, c'est-à-dire qu'il faut quand même un hardware relativement costaud pour arriver à émuler de la GameCube. Donc voilà, je ne sais pas, honnêtement. Je pense que la Super NES Mini, c'est faisable, la N64 Mini, ça me paraît plus compliqué. Ce que j'attendrais personnellement avec impatience, si ça se fait, ce serait la Game Boy Mini. S'ils arrivent à faire un petit
écran... La Game Boy Micro, ouais, ça existe déjà.
Ouais.
J'allais la faire.
Bien joué. Mais je serais beaucoup plus intéressé par un système comme la Game Boy Mini, parce que je pense qu'il y a du potentiel aussi pour faire quelque chose de sympa. Un petit objet qui tournerait à pile ou à batterie, qui pourrait éventuellement se brancher sur la télé avec un écran LCD intégré, rétro-éclairé, assez basique, et qui reprendrait des classiques du Game Boy ou du Game Boy Color. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est-à-dire, si tu mets ça et que tu mets, par exemple, tous les Pokémon sortis sur Game Boy et Game Boy Color dessus, c'est le carton assuré, quoi.
Et on appellera ça la Game Boy Switch.
On pourrait faire ça. Deuxième petit sujet d'actualité, vous connaissez Julien Chiez. Cet insupportable oui. tête à claque que vous avez envie de taper contre les murs chaque fois que vous le voyez sourire ou affirmer quoi que ce soit.
C'est qui?
Alors
je connais pas du tout. Hein.
Tu connais vraiment pas du tout. Eh bien,
c'est un youtubeur de merde.
Non, c'était le rédacteur en chef et cofondateur de Gameblog.
Mais je vais pas sur ces sites-là, moi, monsieur.
Bah, mais tu as bien raison, tu vas sur le Dojo, le seul site d'actualité qui t'informe vraiment. Et ce mec, enfin, je veux dire, moi, chaque fois que je le vois, j'ai envie de lui coller des tartes. Je le trouve puant d'orgueil, imbu de sa personne, enfin, il est absolument insupportable. Je sais pas s'il est comme ça dans la vraie vie, mais chaque fois que je le vois, j'ai juste envie de le frapper, quoi. Et il se trouve qu'il vient d'être viré, enfin, remercié, limogé, de Gameblog, même s'il en était le cofondateur et qu'il était
associé, fondateur,
il était associé fondateur, mais il avait pas une majorité de des parts, il avait une minorité de parts, donc il a été gentiment remercié. Je ne sais pas s'il a dû céder ses parts ou si on lui a racheté, il n'a pas dit lui-même. Et donc du coup,
dans tous les cas, t'es forcément obligé. Enfin, tu peux pas les donner. On te les rachète forcément.
Non, soit on te les rachète, soit tu les. Alors, on peut t'interdire l'accès. On peut faire pas mal de trucs en fait. Même si t'es actionnaire de la société, si t'es pas actionnaire majoritaire, basiquement, on peut faire un peu ce qu'on veut. Je pense qu'on les lui a rachetés. Je vois pas pourquoi il en serait autrement. C'est-à-dire que les autres actionnaires se sont cotisés pour lui racheter ses propres parts.
Oui,
ça
voilà.
Ça paraît évident. Probablement à hauteur du pourcentage dont il possédait. Mais enfin, ça, on va dire que c'est du purement business.
Ça va. Les actions Gameblog, ça doit pas valoir très cher.
Je sais pas. Apparemment, il avait. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une société d'investissement qui a 370 parts et que lui, il en avait 38, au même titre que les deux autres cofondateurs qui en avaient 38. Donc, je ne sais pas combien vaut Gameblog au total.
Un kebab.
Donc, il a eu un morceau de viande, une frite et un peu de ketchup sur le côté de l'assiette. Ou de la samouraï, hein, ça dépend ce qu'il avait pris au départ.
Bah, ça arrache samouraï, c'est bon. Algérienne, voilà, c'est bien.
Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Je déteste ce mec à un point que vous pouvez pas imaginer. Néanmoins, je suis quand même attristé de voir que un journal, on va dire un média, qui était quand
parce
même...
que le journal, c'est vite dit. Hein.
Oui, voilà, c'était un peu compliqué. Ça me fait chier d'appeler Julien Chiez un journaliste, tu vois. C'est compliqué, mais on va dire un média.
Ah, il a sa carte.
Hein. Putain, sérieusement. Ah là là, les gars, vous faites tellement de me
il l'a eu dans un Kinder Surprise.
Mais comme tous les autres, comme Pujadas, il n'y a pas de problème. non, mais qu'un mec comme ça, comment dire, qu'un média qui était quand même supposé être indépendant, on pouvait beaucoup en douter sur certaines lignes éditoriales, mais qui s'est toujours dit indépendant, et je vais pas être le premier à remettre en cause la parole des gens, parce que c'est pas très gentil de les appeler des corrompus, c'est pas très gentil non plus, mais bon, c'était quand même un média important. Perdre un rédacteur, c'est toujours quelque chose de triste. Un rédacteur qui, lui aussi, perd son boulot. C'est-à-dire, finalement, il va emmener une certaine audience avec lui, mais voilà, donc ça, c'est un événement triste. Mais en même temps, ce mec est tellement insupportable que je suis assez content, finalement, qu'il disparaisse de la scène médiatique. On le verra peut-être un peu moins. Alors, inversement, peut y avoir un effet pervers. Si ça se trouve, il va se lancer sur YouTube et on le verra plus. Et je sais pas comment je me sens à propos de cette nouvelle-là, quoi, si vous voulez.
Ouais, mais il va être influenceur en solo, il va faire des vidéos, il va passer dans des émissions,
Ça va être l'horreur, on va le voir encore plus souvent.
Mais après, pour revenir sur Julien Chiez, enfin, moi j'ai pas forcément d'affinité avec lui, hein, je le connais pas personnellement, de toute façon, je fais pas mes courses avec, mais un mec que j'aime bien, qui fait des vidéos YouTube, Mikael, avait l'habitude de dire, donc c'est il y a quelques années déjà, que c'était un bon représentant du média. C'est con, mais
heureux de l'être.
Non, pas de ce côté-là, sans plus des thèses, donc tu vas pas être objectif, mais du côté où justement il arrivait à bien vendre le médium vidéoludique auprès des néophytes. Et au final, c'était aussi un de ses bons côtés. Alors après, il était peut-être très mauvais journaliste, hein, très mauvais testeur, ça je... Qui suis-je pour juger après?
Je dis même pas ça, je critique même pas le travail de la personne, parce qu'à la limite, je suis assez mal placé pour critiquer les gens. J'ai l'habitude de dire... Ma belle-mère m'a dit une fois, c'est facile de critiquer, je lui ai répondu, ouais, puis c'est marrant aussi. Je veux dire, c'est facile de juger, oui, puis c'est marrant aussi. On passe tous notre temps à juger. Je vais pas m'amuser à dire que je ne juge pas les gens ou que je ne juge pas leur travail. Je veux dire... S'il fallait être tous des artistes pour juger l'art, ça n'aurait aucun intérêt. C'est une remarque qui est débile. on passe tous notre temps à juger. Donc jugez, arrêtez de vous préoccuper du fait que vous jugez ou pas. Mais même sans jugement du travail de la personne qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, je veux dire, je vais reprendre une parole de Marilyn Manson, j'aime pas particulièrement Marilyn Manson, mais pour une fois qu'il a dit un truc intelligent, faut quand même essayer de le faire valoir. Il a dit, faut pas seulement compter ton succès au nombre de personnes qui t'aiment, mais aussi au nombre de personnes qui te détestent. Et je trouve ça intéressant parce que Julien Chies, pour moi, est représentatif de ça. Je pense qu'on peut trouver autant de gens qui l'adorent que de gens qui le détestent, profondément. Et moi, c'est pas tellement son travail en lui-même. Le travail qu'il produit quand il signe un article... je lis pas beaucoup d'articles sur Gameblog, ça m'arrive de temps en temps, ne serait-ce que pour la question de pluralité d'informations, c'est-à-dire pour aller voir ce qui se dit sur Gameblog sur certains sujets. Hein. Son traitement de l'actualité est absolument lamentable. C'est comme tout Gameblog, hein, je veux dire, c'est vraiment du racolage de fond de tiroir, il n'y a rien à en tirer. Quand il fait des articles un peu plus de fond, je veux dire, c'est le mec qui m'a pratiquement donné envie, mais je vais dire ça, putain, je vais être obligé de faire un mea culpa ouais. Terrible, mais c'est pas grave, qui m'a pratiquement donné envie d'essayer Final Fantasy XV.
Ah oui, tout de même.
Parce que l'article qu'il a fait était vraiment intéressant dans le sens où il a pas du tout essayé de faire un article très technique, de critique, de journaliste, très conne, hein, le début, la fin, le machin, l'introduction, enfin tu connais, antithèse, synthèse, antithèse, foutaise, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Il a vraiment essayé de te dire pourquoi lui il avait apprécié le jeu et qu'est-ce qui lui avait plu dedans, et je trouve que cette approche-là était intéressante. C'est pas toujours le cas, mais voilà. Donc, sans critiquer le travail, moi c'est surtout le personnage qui me gêne beaucoup. Il est, je trouve, absolument exécrable. Enfin, j'arrive vraiment pas à me détacher du personnage. Et on se posait la question il y a quelques semaines, pas tout à fait sous cette forme-là, mais presque, peut-on détacher l'artiste de l'art ? Malheureusement, pas complètement. C'est-à-dire qu'à un moment, l'artiste est rattaché à l'art, et le fait que Julien Chies soit quelqu'un de puant, et on sonne à la porte, c'est très intéressant. Je vais lancer la musique, je vais répondre dans deux secondes. Le fait que Julien Chies soit quelqu'un de puant, je trouve que ça discrédite complètement ce qu'il fait, qui n'est pas toujours mauvais, et c'est ça qui me gêne. Voilà. Et ça insiste, donc je vais lancer la pause musicale. Il s'agit de l'OST de Pikmin 3,
à tout de suite.
Qui s'appelle Garden of Hope. À tout de suite, et je vais répondre à la porte, désolé, bisous. Et nous voilà de retour. Et comme vous pouvez le constater, cette émission est très professionnelle. Mieux que Gamekult, hein. Mieux que Gameblog, pardon. Excusez-moi, je crache sur les mauvais.
Tu vas te faire taper dessus après.
Enfin, je crache sur d'autres pour d'autres raisons. Non, je vais pas me faire taper dessus parce que globalement, nous, on est indépendants et on n'est pas payés. Donc, personne ne peut nous reprocher quoi que ce soit.
Ah oui, j'ai oublié ce concept de gratuité aussi. Bon, moi, je me barre.
On n'est pas sponsorisé par personne, nos jeux on les achète nous-mêmes. Et donc quand on crache sur quelqu'un, on crache volontairement et bien grassement. Bref, il y a eu un Nintendo Direct mercredi dernier, dans lequel il a été. Il y a eu deux grosses parties. La première partie était consacrée à la 3DS. Et comme je le disais un petit peu avant l'émission en off, le système 3DS n'est pas mort, il bande encore. C'est-à-dire que finalement, il y a eu énormément de choses annoncées pour 3DS. Alors, c'est pas non plus l'avalanche de ouf de folie, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de... Merci beaucoup. autant de choses annoncées sur 3DS. Il y a eu, pour rappel, un Monster Hunter RPG. Alors, Monster Hunter RPG, a priori, tout le monde s'en bat les couilles ici. Mais quand même, c'est pas un petit jeu, quoi. Il y a eu Epic Mine.
Ça peut être sympathique, on va dire, mais bon, ça va faire passer le temps, c'est comme Chibi Robot.
Oui, ça a pas l'air d'être le truc totalement extraordinaire de ouf, on est bien d'accord, ça a l'air d'être quand même plutôt limité, mais ça a l'air d'être un... Enfin, je sais pas, c'est... Les mecs ont essayé d'adapter le concept Pikmin à la 2D, donc je me dis, peut-être que ça peut passer. Il y a Ever Oasis, qui est encore un gros RPG qui est produit par je sais plus qui, et qui avait l'air sympa pour un RPG, mais bon, moi, les RPG, c'est pas mon truc. Et il y a 3 mini-jeux Kirby, alors je crois tous en téléchargement,
Il y en a un qui est gratuit.
Il y en a un qui est gratuit, deux autres payants, c'est bien ça?
Dans mes souvenirs, c'est ça.
Ce qui fait quand même que... Enfin, j'ai pas la 3DS pour 2017. On avait tous pronostiqué le fait qu'elle soit morte. Et au final, elle est pas si morte que ça.
Bah, c'est presque décevant au final, parce que bon, après, la Switch se vend bien, mais ça aurait été une... Bah, c'est dommage qu'elle soit de 3DS, mais au final, elle est sortie en 2010, je dirais, que l'on corrige si c'est faux. 2011, peut-être.
C'est 2011, peut-être.
2011, ok. Bon, 6 ans de vie, c'est quand même pas mal. Elle a eu une très belle ludothèque, donc ça aurait été une bonne idée de justement bouger tous ces jeux, les mettre tous sur Switch, histoire de pousser un peu les consommateurs à... Les consommateurs, les joueurs, lapsus révélateur, à passer sur Switch.
Et au final... Vous êtes tous sur Gameblog.
Monsieur, ici, on n'est pas chez Sony, on parle de joueurs.
Oui, pardon, on parle de joueurs, c'est vrai, on les respecte un peu. On voit une console sans jeu, mais on les respecte un peu. Et du coup, voilà, c'est ça éviterait au moins aux grands médias de dire qu'il n'y a pas de jeu sur Switch. On sait qu'il y en a, mais bon, ça reste quand même assez rare et assez léger. Donc ça aurait pu être... Ça aurait pu aider un peu, c'est dommage, je trouve.
Bah, je sais pas, est-ce que vous pensez que Nintendo fait une erreur en maintenant la 3DS, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que... Enfin, je sais pas... Bon, quand je regarde le truc un peu froidement, je me dis, ça sert à quoi d'arrêter de produire des jeux pour une machine qui a déjà un parc installé qui est... tout à fait honorable.
Spectacle.
Voilà, 60 millions de consoles dans le monde, quelque chose comme ça.
À peu près, oui.
À peu près. Donc c'est quand même un parc qui est très sympa, hein. Je veux dire, c'est la moitié du parc de la PS2, c'est la moitié du parc de la DS, enfin c'est quand même un parc très très raisonnable. Qui, de la bouche de Kimishima lui-même, Tonton Kiki, qui nous disait, on voit plus ça comme la console qui est réservée aux enfants, on va dire l'entrée de gamme ou la gamme enfant, la console portable personnelle, parce que c'est vrai que la Switch est un petit peu... Enfin, chez moi, elle est très familiale, la Switch, alors que la 3DS est plus personnelle. Mais je vois pas l'intérêt d'arrêter de produire des jeux pour une console qui marche, surtout qu'il n'y a plus de concurrence en termes de console portable. Je veux dire, il y a la concurrence...
La seule concurrence, justement, c'est même avec la Switch, en fait. C'est ça le problème. Et surtout que, autant sur Wii U, ils ont arrêté la production de console même, donc on voit bien justement la coupure nette avec la sortie de la nouvelle console, alors que là on dirait qu'ils veulent maintenir les deux consoles en même temps, et au final, les gens qui jouent que en portable vont pas être tentés, à moins qu'il y ait leur jeu phare qui sorte que sur une console, vont pas être tentés de faire le changement, en fait. C'est ça le truc qui me gêne un petit peu.
Alors je sais pas, parce que, je rebondis sur ton argument, certes, mais tous les jeux qu'on a vu présenter lors de ce Nintendo Direct sur 3DS, n'était pas fait par Nintendo. C'est-à-dire que Nintendo, ses ressources internes sont intégralement consacrées à la Switch. Ça, aucun doute. Epic Mine est produit par un studio tiers, je sais plus exactement qui c'est, mais c'est pas un studio interne de Nintendo.
Kirby, c'est à Laboratories.
Non, je crois... Oui, Kirby, c'est à Laboratories. Donc c'est... Ouais. Ah non, même pas tous, en fait. Je crois qu'il y en a un qui est à Laboratories et les deux autres, non. Ever Oasis, c'est externe, Monster Hunter RPG, c'est externe, tous les autres trucs qui ont été présentés, c'est que de l'externe. Donc c'est, finalement, ils continuent, Nintendo en interne, continue à produire la 3DS au sens hardware, continue à donner des licences software pour que les éditeurs tiers continuent à faire des jeux dessus s'ils le souhaitent, mais eux, en interne, la 3DS, j'ai l'impression que c'est fini. Il n'y aura plus de jeux Nintendo sur 3DS.
Ouais. Ouais, c'est vrai, ça se tient à peu près.
Du coup, je sais pas si ton argument tient, c'est-à-dire qu'effectivement... finalement, ils sont en train de dire ça sert à rien de tuer la poule aux œufs d'or qui en plus rapporte du pognon sans faire grand chose. Sur le hardware, il est très largement rentabilisé aujourd'hui, je pense, en termes de R&D, en termes de production. Tant qu'il n'y a pas de raréfaction d'un élément de hardware sur la 3DS qui serait absolument indispensable, genre l'écran 3D au hasard. Mais où le processeur, où voilà, il n'y a pas une pièce qui est impossible à produire et qui précipiterait la fin de production hardware de la machine, il n'y a pas de raison de plus en produire. Surtout qu'il me semble que le hardware de la 3DS ne cannibalise pas le hardware de la Switch, c'est pas produit dans les mêmes usines par les mêmes sous-traitants, si je me rappelle bien. Donc voilà, à quoi ça sert de tuer la poule aux œufs d'or, alors qu'en réalité, il y a encore moyen d'arriver à en tirer peut-être une belle année 2017, peut-être qu'en 2018 il sera peut-être temps d'arrêter, mais... est-ce que vous pensez du coup que la 3DS est en train vraiment de tirer ses dernières cartouches, ou est-ce que vous pensez que finalement il y a peut-être encore un bon 6 mois, peut-être même un an et demi à faire ?
6 mois, c'est sûr, parce que là déjà j'ai vu qu'il y avait des jeux qui étaient annoncés pour l'automne par exemple, pour septembre. Enfin, ils visent quand même, ils visent pas jusqu'en juin par exemple. J'avais quoi en automne ?
Il y a Fire Emblem Warriors de toute façon qui est prévu pour l'automne.
Ouais, Monster Hunter Stories, alors pour le réussir à dire ça par contre, Cult Sept Revolt. Je suis toujours aussi bon en anglais, ça n'a pas changé. ce genre de jeu, bon, ça prévoit au moins jusqu'à rentrée prochaine, on va dire jusqu'à Noël. Après, j'espère qu'à partir de mi-2018, ça sera vraiment la fin, parce que, bah, après, ton argument, c'est vrai qu'il est bon au final, parce que les jeux Nintendo vont sortir sur la nouvelle console, sur Switch, et tant qu'il n'y aura pas un Pokémon qui sera sorti sur la Switch, les gens vont encore considérer que la 3DS est encore en vie. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui pensent comme ça, qui achètent leur 3DS pour leur Pokémon, et enfin leur 3DS ou leur console Nintendo en général. Et du coup, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas un Pokémon qui est annoncé, pour eux, ils ne voient pas trop l'intérêt de changer. S'il y a encore des jeux qui sortent, bon, bah tant mieux, ils s'achètent un jeu tous les 4 mois, ça ne va pas les pousser à investir dans 300 balles dans une nouvelle console.
Bah, c'est un peu ça, puis en plus, je me mets à la place des parents, puisque je suis parent aussi moi-même. Je me dis, bon, le gamin, il a une 2DS ou une 3DS, il continuera à sortir des jeux dans les 6 mois, 1 an, pas besoin d'investir. Alors après, effectivement, est-ce que ça entame réellement les ventes de Switch? C'est ça la question. C'est la question que tu posais toi au départ. Pour moi, ça n'entame pas les ressources internes de Nintendo dédiées à la Switch. Les gens qui ont envie de nouveautés, la Switch est là. Les gens qui ont envie de voir des jeux Nintendo, la Switch est là. Maintenant, est-ce que ça cannibalise vraiment les ventes de la Switch? Ça cannibalise pas le hardware, ça rien n'empêche de continuer à produire des licences software, il y a vraiment rien de problématique à ça. Est-ce que ça pénalise vraiment les ventes de Switch? Toi, tu me dis oui, parce que finalement... tant qu'il n'y a pas un Pokémon qui est sorti, voilà, mais je te retourne l'argument. Sur 3DS, il n'y aura probablement pas de nouveaux Pokémon, donc de toute façon...
J'espère. Mais alors, je vais dire oui, ça pénalise, mais à court terme. C'est vrai que, du coup, c'est des gens qui n'ont pas acheté la Switch, mais on va dire qu'ils n'ont pas acheté pour le moment. En fait, ce qui me fait le plus peur à la base, mais du coup, c'est bien... Pour l'instant, on a combien de ventes de Switch? Vous avez des chiffres ou
2,4 millions estimés.
Et il y a combien de Wii U qui ont été vendus en tout? 10 millions?
13 millions.
13 millions? Ouais,
c'est 13,2. En fait, si Nintendo se démerde bien, à la fin de la première année fiscale, donc en mars, fin mars 2018, prochain, ouais, ils auront écoulé au moins autant de Switch que de Wii U en 5 ans. Enfin, en 4 ans, parce qu'en réalité, c'est pas tout à fait...
C'est déjà pas mal, parce que en fait, c'est ça qui fait le plus peur aussi. C'est de me dire que les gens achètent pas la Switch tout de suite. Du coup, au final, bah, y a moins de gens qui vont acheter la Switch, donc il y a moins d'éditeurs tiers qui vont développer dessus, donc il y a moins de jeux, donc il y a encore moins de gens qui achètent, et pour pas revenir au cercle vicieux qu'on a connu avec plusieurs consoles avant. Et c'est plutôt ces politiques-là en fait qui me gênent. Je préfère limite qu'on mette à mort plus vite une console, et encore, je pense que 6 ans de vie avec autant de jeux, c'est pas vraiment mettre à mort. Pour pousser la nouvelle.
La ludothèque de la 3DS est peut-être beaucoup moins fournie que celle de la DS, mais en même temps, il y a beaucoup moins de shovelware à la con dedans. Quand même être un peu honnête, la 3DS a été
particulièrement gâchée.
Maintenant, elle a été un peu plus filtrée. La DS, t'as vraiment des jeux de merde dessus, mais c'est la folie. Quand tu commences à vraiment creuser au fond de la ludothèque de la DS, il y a des trucs complètement hallucinants.
Narnia, c'était nul.
Alexandra Lederman.
Non, critique pas Alexandra Lederman, s'il te plaît.
Comment dire, je l'ai fait moi-même, mes devoirs au CM1. des trucs. Enfin, vous allez aller chercher sur le bon
coin. Le code de la route.
Non mais ouais, enfin ça m'a été utile moi, donc je vais pas aller critiquer. Mais si vous voulez faire un petit test, allez sur le bon coin, vous tapez Nintendo DS dans le champ de recherche et vous mettez catégorie jeux vidéo sur toute la France et allez regarder les annonces qui passent, mais il y a des trucs hallucinants. Il y a d'excellents jeux sur DS. Il y a une petite minorité d'excellents jeux sur DS. Il y a des jeux qui sont très bons, on va dire, qui sont en milieu de peloton et qui sont très bien. Il y a probablement quelques perles cachées sur DS qui valent le coup d'être parcourues. Mais il y a un nombre hallucinant de merde. C'est pire que sur Wii, je trouve. Sur Wii, il y avait un nombre hallucinant de shovelware. Voilà, je trouve que la ludothèque de la 3DS au global est plus intéressante, enfin, est moins remplie de bouse. Voilà, je sais pas comment dire autrement, mais elle est plus qualitative au global.
Alors, il y a Galaxy qui nous signale sur Twitter, vous pouvez toujours réagir, hein, soit au hashtag Dojobar, soit en nous citant directement, voilà, petite pub gratuite, qui nous signale que, de toute façon, sur la Switch, ce sont aussi des jeux de salon, c'est pas totalement le même public que sur 3DS. Et c'est vrai qu'il a raison, ce con, putain.
Alors, on n'a pas dit qu'il avait tort, hein, au contraire, excellente remarque, c'est effectivement, Nintendo a toujours dit, la Switch, c'est la console de salon que tu peux emporter partout. Il n'a jamais dit c'est la console portable que tu peux brancher sur ta télé. Même ouais, si c'est un peu les deux.
Au final, voilà, c'est un peu les deux. Il y a beaucoup de gens qui considèrent plus ça comme ça, d'ailleurs.
Je sais pas, la position de la 3DS me paraît toujours être quelque chose de... Enfin, moi, aujourd'hui, je pense que la position de Nintendo de dire la 3DS, c'est la console d'entrée de gamme pour les enfants, ça me paraît être une position tenable, au moins jusqu'à ce qu'une Switch Mini... Transition audacieuse.
Dans 2 ans.
dans un ou deux ans, oui, puisse éventuellement sortir. Alors Zergy, je sais pas si t'avais un petit avis, me semble-t-il, sur le sujet.
J'ai juste vu un truc hier où ils en parlaient. Ils disaient que ça serait 2018-2019. Mais ça pourrait intéresser des gens qui sont tentés uniquement par le côté portable. Hein.
Voire même après qu'ils pourraient acheter un câble qui ferait les deux, un câble USB-C qui oula, comment je pourrais expliquer ça? Qui se brancherait avec
sur
deux
la
sorties
télé.
Voilà, sur la télé, mais avec une HDMI et une prise secteur. Ce serait peut-être aussi simple, limite. Le câble coûterait 40 balles. Et ça permettrait d'avoir une console vraiment qui ferait. Ah, mais non, mais je suis con, il n'y a pas de manette à part, il faudrait acheter une manette en plus.
Alors,
ah, putain,
moi,
quel bœuf.
Mais ça dépend parce qu'en fait. Alors, l'idée derrière la Switch Mini qui a été évoquée par je ne sais plus quel analyste, ce qu'évoquait Zergy. L'idée de la Switch Mini, c'était de dire produire une version à bas coût, c'est-à-dire sans Joy-Con détachable, avec un écran plus petit, donc moins cher, avec des composants moins chers parce que pas capable de passer du 720p à 1080p.
Ouais.
J'exagère un peu. L'idée étant que du coup, tu gagnerais, t'aurais pas forcément besoin de refroidissement, t'aurais pas forcément besoin d'avoir une fréquence d'horloge qui s'adapte sur le CPU et le GPU en fonction de si t'es docké ou pas docké. Et de faire une version qui soit un peu plus, entre guillemets, kid-friendly, c'est-à-dire, effectivement, pas de manette détachable, donc moins de possibilités de casse, de perte. De... Pour moi, tu perds l'argument principal qui est, t'as toujours deux manettes sur toi avec ta console. Maintenant, il faut quand même reconnaître que ça se rapprocherait beaucoup d'une console portable, même si je suis d'accord avec notre ami sur Twitter. Les jeux que tu joues sur console de salon, c'est pas la même chose que les jeux que tu joues sur console portable. Voilà. Pour jouer à Breath of the Wild, c'est vraiment un jeu qui a été pensé console de salon. Quand il joue en mode portable, ben, ok, tu peux sauvegarder à tout moment, ok, il y a des sauvegardes automatiques tout le temps, voilà. Mais c'est pas le même confort. Et c'est très compliqué de faire 10 minutes de Breath of the Wild, laisser tomber le truc parce qu'il faut que tu changes de métro, refaire 5 minutes, enfin, c'est juste infernal.
Oui,
c'est pas un jeu qui est adapté pour
adapté.
Ça.
Voilà. Je suis voilà.
Donc après il y a peut-être des jeux qui sortent, c'est ce qui est intéressant sur Switch aussi, hein. Il y a des jeux qui seront peut-être plus adaptés à de longues sessions dans un canapé et des jeux qui sont plus adaptés à du nomadisme. Bon. Maintenant, voilà, je sais pas, honnêtement, je me pose la question. Pour moi le positionnement de la 3DS de Nintendo pour l'instant est relativement cohérent, c'est aucune raison de tuer la poule aux œufs d'or tout de suite, surtout si elle ne coûte plus rien. C'est comme ça que je le vois. Moi, c'est aujourd'hui, ça ne coûte rien. Je pense pas que ça cannibalise beaucoup de ventes de la Switch parce que de toute façon, ce qui fait que les gens achètent la Switch pour moi, soit pour le potentiel, soit pour les jeux qui sont déjà dessus. Et ça, c'est pas prêt de changer. Et je veux dire, tant que, enfin, si le prochain Pikmin sort sur 3DS et sur Switch, oui, là, il se tirerait une balle dans le pied. Pardon, le prochain Pokémon, excusez-moi,
oui.
Sortait sur 3DS et sur Switch, là, les mecs se tireraient une balle dans le pied. Par contre, s'il sort juste sur Switch, là, effectivement, c'est officiellement, il tue la 3DS. Je vois pas comment l'expliquer autrement. À propos de Switch, d'ailleurs, il y a eu...
Quelle transition ?
Mais c'est formidable. Vous remarquez à quel point cette émission fait preuve de professionnalisme, contrairement à Gameblog. ça va être la grande barre. Julien Chies, si tu nous écoutes, big up, bro, je te déteste. Je te déteste. Vraiment,
déteste. On pourrait l'inviter un jour dans le jeu bar.
Un jour, il faudrait qu'on l'invite pour voir s'il y a moyen de que je le déteste moins si je l'ai en face. Je serais vraiment curieux.
Ou pour le tracher.
Je serais vraiment curieux de le rencontrer personnellement pour voir si j'aurais toujours envie de lui mettre des tartes personnellement plus que quand tu le vois en vidéo ou quand tu l'entends. C'est compliqué. Hein, de... Je me dis, en relation vraiment face à face, ça passerait peut-être différemment, j'en sais rien. Mais bon, bref. Je vous parle de mes angoisses concernant Julien Chies en direct, c'est quand même très compliqué. Il y a eu deux, trois petites choses de présenter. La première... Alors, on va pas faire tout à fait dans l'ordre, on va commencer par Splatoon 2, si ça vous dérange pas. Il y a eu la présentation d'une espèce de pseudo-mode Horde, qui est en fait il y a plein de poissons qui envahissent... de mini-poissons qui envahissent ton île avec un poisson-boss de temps en temps, et il faut aller casser la gueule à tout le monde... Enfin, c'est un mode zombie en fait, c'est un mode, je sais plus, un mode horde, un mode zombie dans Call of Duty, un mode invasion, un mode voilà.
Mais là, lorsque tu meurs, on peut te ressusciter. Alors que je crois que dans Call of, si t'as peut-être des piqûres ou. Bon, je vais rien dire, je sais pas, je sais jouer.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que. On disait il y a une semaine, finalement, il n'y a pas tant de nouveautés de ça qu'on vous a présenté, c'est-à-dire peut-être qu'il y aura un mode solo, le mode multi, il n'a pas beaucoup bougé. Ah, là tout d'un coup, un mode coop. tout nouveau, tout chaud, alors certes inspiré de ce qui se fait déjà, mais sauce Splatoon. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous tente plus? Est-ce que du coup le jeu retrouve un peu d'intérêt pour vous?
Alors, oui, mais... Enfin, j'avais déjà l'intérêt pour le jeu en fait, donc c'est un petit plus, je suis content que ça y soit, mais c'est un ensemble de petits plus qui va me dire que tiens, finalement il y a vraiment une grosse différence, et tant mieux si je l'achète, ça valait vraiment le coup, mais dans tous les cas je vais l'acheter, donc c'est... Je suis assez partagé en fait là-dessus, c'est vrai que je me dis que le nomadisme de la Switch va me pousser à y jouer peut-être plus souvent, donc c'est un avantage. Peut-être un peu partout, c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude d'y jouer sur ma télé, Splatoon j'ai un peu décroché à cause de ça, mais après, le mode Horde, clairement, on va y jouer trois fois entre copains, et ça va vite être lassant, je pense. Enfin, j'ai peur que le côté stratégique soit assez faible au final.
Je sais pas, moi je sais que j'ai beaucoup joué à Left 4 Dead 2.
Ouais.
Enfin, Left 4 Dead et Left 4 Dead 2. Et en fait, le mode qui m'a le plus tenu, c'était pas vraiment le mode histoire scénarisée avec des potes ou humains contre zombies. Au final, le truc auquel on a le plus joué, c'est essayer de faire des scores sur les cartes. Je sais pas comment s'appelle le mode, je me souviens plus. C'est pas le mode versus.
Ouais, mais la grosse différence, c'est que... Enfin, autant Left 4 Dead 2, j'ai l'impression que ça a été quand même pas mal conçu là-dessus, autant Splatoon, le mode de jeu de base, ça reste quand même la capture de territoire, avec sinon les modes de jeu compétitifs, mais c'est un petit truc annexe, ça n'a pas été vraiment fait pour ça. Enfin, je pense que même au niveau du game design et tout, ça va être assez léger.
Donc toi, tu dis, c'est que c'est quand même un truc plutôt... T'as l'impression que c'est plus une espèce de d'apéritif.
Ouais, c'est ça, c'est
pas rajouté pour t'entraîner.
Ouais, je le vois comme ça.
Zergy, éventuellement un avis, je sais pas si t'avais beaucoup joué à Splatoon, je me souviens plus trop ce que tu nous avais dit, il me semble que pas tellement.
J'ai pas vu Nintendo Direct, surtout.
Oh le loot, putain, mais c'est... appelez-moi Julien Chiez, là, on a peut-être un truc à faire avec Zergy. Non mais il y a un, voilà... Je sais pas, moi je... Alors effectivement, moi j'étais de toute façon déjà vendu pour Splatoon 2 parce que j'adore le premier, donc il n'y a pas de raison que je joue pas au deuxième. Je trouve que c'est un beau bonus, mais si c'est vraiment un mode qui est orienté scoring, co-op, online, ça pourrait finir comme un apéritif assez conséquent, je pense. Alors, effectivement, le cœur du jeu, pour moi, ça reste le Turf War, qui est vraiment le mode de jeu de base et qui fait tout le sel et l'intérêt de Splatoon. Mais c'est quand même, je trouve, un sacré bonus. C'est-à-dire que je pense qu'il y a moyen que, personnellement, j'y passe énormément de temps, parce que je dis, dès qu'il s'agit de scoring sur ce genre de choses-là, si c'est bien fait, si les cartes sont suffisamment diversifiées, si les situations sont suffisamment diversifiées, s'il y a des objectifs à défendre, si le truc est bien foutu, il y a moyen quand même d'y passer un bon moment. Et rien que te dire, je veux dire, sur Left 4 Dead 2, avec des potes, à chaque fois c'était, voilà, on arrive à golder telle map, c'est pas si évident que ça, il faut vachement réfléchir, faut recommencer 3-4 fois, faut essayer différentes stratégies. Je me dis que si c'est bien fait, il y a peut-être moyen d'arriver à, déjà à pas les finir du premier coup, et pour les golder en termes soit de temps, soit de score, à y passer un bon moment. Donc, voilà, moi Splatoon 2, là, je suis content.
Il y a de nouveau ce cher Galaxis qui nous parle et qui nous dit, en parlant de ce mode Horde, s'il est aussi bien foutu que dans le dernier Call of... Merde, c'est descendu. Arrêtez de tweeter. S'il est aussi bien foutu que dans le dernier Call of, ce mode Horde a vraiment un potentiel énorme, parce que ça a justement une énorme rejouabilité, les modes comme ça, surtout avec un peu d'easter egg, etc.
Mais je pense que... Mais je pense
surtout
que
avec des maps différentes,
pardon. Mais ça ajoute aussi de la diversité. Je veux dire, entre deux turf war ou entre deux matchs pro, t'as un truc un peu plus PVE, quoi, quasiment, un peu plus orienté plus scoring que compétition, qui peut être une distraction intéressante, quoi. C'est pas le mode principal, on est bien d'accord.
Voilà, après, ça dépend aussi de l'affect personnel qu'on a par rapport à ce genre de mode. Bon, là, lui, je sais que c'est un 2000, donc ça compte pas vraiment. Les modes zombies, je pense qu'il a pas mal bouffé sur Call of, mais c'est vrai que de ta part, je pensais pas.
Bah, moi, je suis plutôt... je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, alors Zergy, je pense que t'étais déjà sur le forum, parce que c'était il y a longtemps, il y a Sirar et The Lascar qui s'étaient lancés dans une espèce de concours sur un jeu qui s'appelle Yoshi Touch and Go, sur DS, qui était un des premiers jeux sortis sur DS.
Alors, je vois le jeu, mais je vois pas de quoi tu parles au niveau de Lascar et Sirar.
Bah, Lascar et Sirar, en fait, s'étaient lancés dans une espèce de concours un peu débile à qui irait le plus loin dans Yoshi Touch and Go, qui est vraiment un pur jeu de scoring... dans lequel qui n'a absolument aucun intérêt en dehors du scoring. T'as pas de mode histoire, t'as pas de machin, c'est vraiment juste aller le plus loin possible en une seule vie.
Et bah justement, j'ai trouvé ça chiant. On dirait un jeu mobile. Et le problème, c'est que j'ai pas envie d'acheter le jeu mobile sur console. Je l'avais chopé à 2€, je crois, dans un API cache ou quelque chose comme ça. J'étais content, je savais pas du tout ce que c'était. Et au final, bah, je m'attendais à rien, j'ai quand même été déçu.
Mais en fait, c'est un jeu qui n'a absolument aucun intérêt, sauf si tu y joues avec un autre mec qui lui aussi essaye de battre ton score. En fait, c'est con les jeux de scoring, mais effectivement, avec un ladder mondial qui dirait « Putain, il y a une équipe qui a réussi à faire 2 minutes 33 sur la carte numéro bidule pour l'avoir en or, ou qui a réussi à faire tel score dessus », là, ça devient vachement plus intéressant, les jeux de scoring, à partir du moment où tu peux te comparer avec d'autres. Donc je sais pas. Je sais pas comment ça va tourner, mais je trouve que c'est pas... C'est dans l'absolu, je trouve pas ça inintéressant. Voilà. Le deuxième très gros morceau de cette présentation, c'était Arms. Alors Arms, on y a joué avec Drosgar, on a eu la chance d'y jouer en janvier dernier, même si je sais pas si Drosgar t'en a fait beaucoup, t'as dû faire une ou deux parties un peu comme avec Pab et moi-même.
Ouais, c'est ça, j'étais avec Olbius, et c'était sympa, mais je pense pas que ça reste à moi en fait, c'est le souci. J'espère être conquis plus tard lorsqu'il y aura un vrai jeu qui sortira, mais c'est vrai que là, une ou deux parties, ça m'a pas assez mis dedans. Par contre, c'est vrai qu'on pouvait les voir, vu qu'il y a la compète, le tournoi qui avait lieu en même temps, il y en avait qui étaient vraiment à fond et qui étaient vraiment touchés par ce jeu.
Mais surtout, les mecs commençaient quand même à bien toucher leur bille hein, sur la fin.
Ah oui, ça totalement.
On l'a dit la dernière fois, mais c'est vrai que Arms, au début, tu te dis oui, Wii Boxing, machin un peu débile, mais en fait, non, le truc est vachement précis, vachement compétitif. Et là, du coup, il y a un nouveau personnage qui a été annoncé, c'est-à-dire qu'on avait 5 personnages au départ, avec un design très très proche d'un Splatoon ou d'un Splatoon 2. Cette espèce de... Je sais pas comment, faudra arriver à trouver un nom pour ce style de personnage, parce que c'est vrai qu'il y a un côté, il y a une esthétique très particulière de Splatoon qui a été reprise pour Arms, et c'est un peu Wii Boxing rencontre Splatoon. Il y a un nouveau personnage qui a été dévoilé, Min Min, il y a quelques nouvelles armes qui ont été dévoilées, il y a quelques combinaisons qui ont été dévoilées, et Nintendo a commencé surtout à expliquer toutes les façons de jouer qu'il y avait, toutes les stratégies qu'il était possible de faire. Bloquer les bras de son adversaire, l'empêcher de pouvoir encaisser des coups, les différents bonus qui étaient affectés. On a pu voir qu'il y avait quand même beaucoup plus de profondeur que ce qui avait été annoncé au départ, même si nous on l'avait un peu senti en y jouant qu'il y avait quand même un gros potentiel. Là, ils ont quand même clairement affirmé que non, c'était pas juste Wii Boxing un peu débile où fallait taper comme un connard dans l'air. Non, il allait y avoir un petit peu plus de stratégie que ça. Est-ce que ce qu'on vous a montré, ça vous tente un peu plus? Du coup, vous vous dites que le concept est en train de s'affiner un petit peu et que ça peut être quelque chose de très profond, ou est-ce que finalement, pas plus tenté que ça?
Mais là, on parle du jeu, mais c'est bien beau tout ça, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont annoncé des putains de Joy-Con jaune néon. Ça, c'est la vraie info, ça.
Tu sors. Mais tout de suite.
Et aussi des batteries à caler dessus, là, qui tiennent plus longtemps, enfin, à pile.
J'ai pas compris.
Ouais, moi non plus, j'ai pas compris. Elles tiennent déjà hyper longtemps.
En plus, ça va être super pas pratique.
Enfin, c'est gros.
Il va falloir les glisser dans le côté du... Enfin, je vois pas l'intérêt.
Mais c'est peut-être pour ceux qui ont des grosses mains, justement, pour avoir quelque chose de plus lourd à porter.
Bon, est-ce qu'on peut revenir à Arms, parce qu'on essaie de parler de choses intéressantes dans cette émission?
D'accord, bon, Zergy, je te laisse parler.
Ça va être difficile.
Non, mais Drosgar, sérieusement, est-ce que tu...
Mais moi, le jeu m'intéresse pas spécialement à la base, donc je vais forcément être mauvais choix, c'est ce qui est chiant. Mais je comprends l'intérêt qu'on peut avoir de...
Puis vous êtes deux connards, moi je me casse, quoi.
Mais on n'a pas annoncé de Pokémon, qu'est-ce que tu veux, je m'intéresse.
Alors, bon, le personnage bonus dans Arms, c'est Dracaufeu. Voilà, ça y est, c'est
ah,
bon.
Ah, oui. Bah là, ça m'intéresse. Non, mais en vrai, si, c'est intéressant, et puis on commence à voir qu'il y a un vrai côté stratégique avec...
Voilà, Maconure, ce serait raccord.
Mais ouais, en plus, oui. Bah ouais, mais du coup, ça fait Pokémon, et Pokémon, c'était de la merde, c'est dommage. Enfin, désolé, hein, les fans de Pokémon, vous êtes 3 à nous écouter à peu près.
2,5.
Après, le côté type, ça j'ai bien aimé. Enfin, le côté avec les supériorités, les faiblesses, je trouvais ça sympa et je pensais que ça pouvait justement rajouter un peu de mind game supérieur. Non, enfin, en vrai, le jeu a du potentiel, il va être intéressant, mais pour l'instant, je suis pas convaincu. Après.
T'arrives pas à accrocher, mais c'est quoi?
Ouais,
pas à accrocher, c'est quoi? C'est le fait, gameplay, tout... c'est le design, c'est.
Mais
c'est...
déjà, à la base, c'est un jeu de combat, un jeu de combat et un jeu de sport. Donc, c'est des choses que j'apprécie pas à la base. Ça aide pas, on va dire. Parce que, à part Smash et jeu de combat, c'est pas trop mon truc. Il y a le côté motion gaming et, on peut ne pas accrocher. Ça peut être sympa, mais là encore, j'ai toujours l'habitude. Enfin. En général, je joue seul et ça me fait chier de jouer seul à des jeux motion gaming. À plusieurs, ça peut être sympa.
Je te rappelle qu'ils ont annoncé qu'il y avait pas, le motion gaming n'était pas obligatoire et qu'il y allait y avoir un mode dans lequel tu allais appuyer sur la gâchette pour lancer ton poing, utiliser le stick pour...
Ouais, mais ça allait vraiment... Enfin, c'est un petit côté artificiel, je trouve. On sent que le jeu a vraiment été conçu pour ça. Enfin, tu te souviens qu'on y a joué, vraiment la manière dont ton bras, ça fait vraiment un petit effet. C'était bien foutu. Mais à moins d'y jouer avec des potes, où là ça peut être intéressant, comme qu'on y a joué en janvier, je crois. Tout seul, je sais que j'y jouerai jamais, et au final, il va prendre la poussière. C'est ce que je trouve dommage.
Même en ligne, ça te tente pas, parce que là, effectivement, il y a du mind game. C'est un vrai jeu de combat. C'est pas juste un ersatz de Wii Boxing dans lequel tu tapes comme un connard avec ta Wiimote et ton Nunchuk dans l'air pendant 3 minutes en attendant que le mec s'écroule.
Ouais, mais ça a l'air d'être quand même.
Si tu fais n'importe quoi, tu vas te prendre une tarte et c'est tout ce que tu vas récolter.
Ouais, en plus, ouais. Mais en ligne, c'est le même problème, t'as personne à côté de toi, en fait. Enfin, Mario Kart, autant ça me dérange pas trop d'y jouer en ligne, parce que c'est Mario Kart, quand même, je le préfère un petit peu. Dans mon cœur, il y a une place particulière. Mais pour ça, le fait que j'ai un appart bientôt, ça va peut-être changer la chose, hein, parce qu'au final, j'aurai peut-être plus de monde qui viendra, donc je pourrais y jouer avec eux. Mais c'est vrai que si j'étais resté chez ma mère, non, c'est sûr que...
Oh, tu vas t'installer tout seul, c'est mignon.
Oui, je vais être autonome à 12 ans.
Oh là là, tu vas prendre ton envol du nid familial et couper le cordon.
Il était temps, hein.
Ouais, mais oui, c'est ce que j'allais te dire. vraiment un gros salaud. Bon, donc, je n'ai pas d'enthousiasme de Arms pour m'aider. Pour ma part, moi, le jeu, j'étais déjà vendu, je pensais déjà qu'il y avait quelque chose à faire. Et plus il y a de présentations, plus il y a de trucs qui sont montrés, plus je me dis que... On tient... Enfin, si ça accroche, le problème, il est là, c'est qu'il faut vraiment que les gens accrochent. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui vont être comme Drosgar et qui vont être rebutés soit par l'aspect motion gaming, soit par le design, soit par le fait que ce soit un jeu de combat et que c'est pas du tout leur style. Un jeu de versus fighting, un contre un, enfin... Je comprends que ça puisse rebuter des gens. Même s'ils ont annoncé aussi un mode 2 contre 2.
Qui peut, oui, j'ai vu ça, oui.
Qui peut être quand même super sympa, effectivement, pour les gens qui aiment pas jouer en 1 contre 1. Je connais beaucoup de gens qui aiment pas jouer en 1 contre 1, qui trouvent que c'est trop de pression, qui a un côté trop compétitif, presque... Et qui préfère faire du 2 contre 2 parce qu'effectivement il y a un côté plus esprit des types, un peu plus sympa, t'as un peu moins de pression, t'as un côté peut-être un peu plus stratégique parce qu'effectivement dans un jeu de versus fighting en 1 contre 1, si tu tombes sur un match-up qui est en ta défaveur, t'as forcément un biais psychologique qui fait que tu vas pas forcément arriver à t'en sortir, alors qu'en 2 contre 2, il y a un côté, il y a un peu moins de match-up maîtrisé, dans le sens où les combinaisons de 2 contre 2, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les combinaisons de 1 contre 1. Donc voilà, je pense que s'il y a une petite base d'utilisateurs, un petit noyau d'utilisateurs un peu hardcore qui arrive à s'y mettre vraiment, ça peut donner quelque chose de sympa. J'attends de voir si ça sera pris à l'Evo 2018 ou 2017, je sais pas si c'est déjà passé, non, 2018 du coup. Ça pourrait vraiment, vraiment être marrant.
Là par contre ce serait intéressant, on pourrait avoir du beau jeu et tout, parce que c'est vrai que la belle technique sur Arms, quand on regarde des tournois, ça me tentait bien, et plus que dans un jeu de combat normal par contre.
Mais à jouer ou à regarder du coup ?
À regarder.
Oui, parce que je me dis pour le e-sport, il y a un beau potentiel aussi, hein. C'est plusieurs fois qu'on le dit, mais...
Ouais, par contre ce sera chiant à diffuser je pense, parce que du coup il faudra faire des... Enfin, autant d'habitude on diffuse juste l'écran de jeu, alors que là il faudra diffuser une partie d'écran de jeu, une partie où on voit les gens qui bougent, sinon c'est pas intéressant.
Enfin... Bah pas forcément si les gens jouent à la manette.
Mais du coup, c'est pas l'intérêt là aussi.
Mais je sais pas, est-ce que c'est le jeu. C'est typiquement genre, on te laisse le choix entre du motion gaming qui marche bien, hein, faut être très clair, il marche très très bien. C'est pas du tout du motion gaming 2007, hein, c'est vraiment du. On est en 2017, ça marche. Et la possibilité d'y jouer à la manette, c'est-à-dire peut-être en mode un peu plus difficile à maîtriser, enfin difficile à appréhender, parce que les commandes sont un petit peu plus costauds. Mais, je sais pas, peut-être possibilité d'être plus réactif, faire plus sérieux, entre guillemets, faire plus hardcore gamer. Qu'est-ce que vous croyez que les gens vont choisir ? Parce que je me rappelle que sur Mario Kart, oui, moi j'étais un des rares sur le dojo à jouer au volant, parce que je trouvais que ça marchait très bien, que c'était très instinctif, très intuitif.
Ah oui, ça, j'ai oublié ça.
Et il y a pas mal de gens qui jouaient exclusivement à la manette, parce que hors de question de jouer au volant, quoi.
Non, mais enfin, oui.
Après, ce que je me dis, c'est si le jeu est. Disons, facile à contrôler, difficile à maîtriser, le motion gaming, ça pourrait peut-être être une porte d'entrée pour certains.
Alors, tu commences par le motion gaming, comme sur Mario Kart Wii, finalement, tu commences par jouer au volant pour apprendre les rudiments du jeu, et après, dès que t'as besoin de passer au niveau supérieur, tu passes à la manette.
Ouais, éventuellement.
Effectivement, c'est une possibilité. Ça fait partie des choses largement possibles. On va terminer cette émission sur les derniers petits trucs qui ont été abordés. Donc il y a quelques jeux qui ont été présentés, dont quelques surprises. Il y a des choses qu'on savait déjà, hein. Rayman Legends Definitive Edition, on connaît déjà le jeu. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de ressortir Minecraft. Ce jeu-là? Alors Minecraft, oui, alors, ok, toute console doit se souvenir d'avoir une version de Minecraft. Mais bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt, soit Minecraft, soit Rayman Legends?
Si le portage est facile à faire, pourquoi pas au final? Parce que pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer, bah Minecraft, bah si, parce que par contre j'ai un ami. Je trouve ça bizarre, déjà rien que le concept d'avoir un ami, c'est, pour moi c'est bizarre.
C'est extrêmement étrange. Hein.
J'ai un ami qui joue à Minecraft exclusivement sur PS Vita. Et
mais
franchement...
pourquoi putain?
Je trouve ça fou. Et du coup il joue tout seul, il fait sa ville en créatif.
Non mais en fait c'est un autiste, c'est ça?
Non, en plus il a fait qu'avec moi, je l'aime beaucoup.
Alors c'est un autiste et en plus il a foiré toutes ses UV d'économie parce qu'il a acheté une PS Vita.
Mais, et du coup je me dis qu'il y a peut-être un public pour des personnes qui vont jouer à Minecraft sur support mobile. Moi personnellement quand j'y jouais, j'y ai rejoué un peu récemment mais ça reste léger.
Il y a pas un Minecraft sur 3DS? Non, il y a pas de Minecraft sur 3DS.
Il devait y en avoir un mais il est pas sorti.
Ah ok d'accord. Donc
là ça peut être intéressant.
Ouais ok d'accord.
C'est surtout le fait de pouvoir justement avoir le côté portable et salon. En vrai non ça je trouve pas ça si con que ça. Par contre il y a un jeu que je trouve bizarre, c'est Project Mikuru. Qui au final m'a plus l'air d'être un mini-jeu qui pourrait foutre à 5 balles sur l'eShop plutôt qu'un vrai jeu qui vont peut-être vendre à 20 euros.
Oui, alors celui-là,
on dirait un mini-jeu, c'est pire qu'un Bomberman.
C'est... Mais alors Bomberman est. Voilà, c'est compliqué Bomberman. C'est pas mauvais en soi parce que c'est Bomberman, mais ça reste Bomberman. Le problème de Bomberman, c'est que ça devrait être un jeu qui coûte 10 balles sur l'eShop. Parce qu'en réalité, les arènes sont toutes les mêmes, le gameplay est toujours le même, et c'est juste rigolo à 4, et voilà, quoi. Ou à plus. Mais j'ai l'impression, effectivement, ce jeu-là, je vois pas le... J'ai pas compris, quoi. J'ai vraiment pas compris. À côté de ça, on a eu aussi donc Rayman Legends, donc moi je dis pourquoi pas, mais enfin, je pense que tous les gens qui étaient intéressés par Rayman Legends, ils y ont déjà joué soit sur Wii U, soit sur d'autres supports. Donc à part Ubisoft qui dit « Ah, attendez, on sort des jeux sur Switch et on n'arrive pas à les vendre », bah ouais, tu sors un jeu qui a 5 ans et qui a aucun intérêt, donc... Je sais pas, celui-là j'ai un peu du mal. Il y a Monopoly qui a été annoncé.
Ouais...
Voilà. Et il y a Payday 2. Alors c'est pas un jeu de mots, hein, c'est pas « Payday ». Non, c'est vraiment bon. Payday 2, qui est un jeu qui a quoi, 3-4 ans maintenant?
Oh, plus que ça.
Le 2. Le 2, hein. Pas le 1. Le 2.
Attends, je vais acheter, mais dans ma tête, il est déjà sorti sur Xbox 360. Ah, 2013, c'est tout.
Donc il est peut-être sorti sur Xbox 360, par contre.
Oui. Possible. Et justement, il y a Galaxy qui marque en gros Payday 2, putain. Donc lui, j'imagine qu'il l'attend.
Bah, c'est pas un mauvais jeu, c'est plutôt même un bon jeu, Payday 2.
Ah oui, bien sûr.
Il y a joué un petit peu, c'est très amusant, c'est très rigolo, il y a plein de modes de jeu. Je m'attendais pas à un portage d'un jeu comme ça.
Moi non plus. Bah, en même temps, c'est vrai qu'on a eu Skyrim, donc pourquoi pas au final, hein.
Ouais, mais alors la question c'est est-ce que ces éditeurs-là, que ce soit pour Rayman Legends, pour Payday 2, pour tout ça, est-ce que vous croyez que les mecs tâtent le terrain en se disant on prend pas de risque, on prend un jeu qui a 3-4 ans et qui pourrait s'adapter facilement sur Switch, c'est-à-dire que l'effort de portage qu'on va faire il va être de 2-3 mois de boulot max et sur un truc qui est déjà largement rentabilisé, donc au final on prend pas un énorme risque. Si ça se vend bien, on continue. Donc quelque chose finalement de très 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 opportuniste, ou est-ce que vous pensez que les mecs ont vraiment réfléchi en se disant bah, dans notre catalogue de jeux déjà existants qui sont pas des projets qui vont arriver de toute façon en multiplateforme, qui arriveront forcément sur Switch, c'est les meilleurs jeux qu'on a à sortir sur la console de Nintendo parce qu'elle commence à prendre un petit peu d'inertie, les ventes marchent bien, donc il faut qu'on sorte quelque chose, il faut qu'on soit présent.
Ça peut toujours être un point de départ, mais le problème c'est que, enfin, il faut pas qu'ils estiment uniquement leur potentiel succès avec des nouvelles licences sur des jeux que tout le monde a déjà pu faire avant sur PC et sur 4 autres consoles. Parce que Payday 2, je sais pas combien il va se vendre, mais s'il se vend déjà à 200 000 exemplaires, c'est pas mal. Enfin, j'ai du mal à estimer, mais ça me semble déjà beaucoup.
Bah, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, Payday 2, je pense que si tu vas sur Steam, tu peux l'acheter pour quoi, 10 euros?
Ah, franchement, même en solde, avec tous les DLC, tu devrais choper à moins que ça, je pense.
Alors après, si la version Switch est une version avec tous les DLC, tous les machins, tous les trucs qui est vendu en boîte pour un prix raisonnable, pourquoi pas, mais à mon avis, ça va être minimum 40 euros. Alors certes, peut-être une Definitive Edition, mais je crois pas des masses au... Enfin, je sais pas. Ça, les choix me paraissent curieux. Autant Skyrim, pourquoi pas, même si...
Je si, Skyrim...
On a l'impression de revivre les débuts de la Wii U.
C'est un peu ça, moi, ce qui me fait peur. C'est-à-dire que j'ai l'impression de revivre le syndrome Wii U. C'est-à-dire qu'effectivement, les tiers sont là, mais avec des jeux qui sont soit datés, soit portés à la va-vite, soit pas très optimisés, soit... Alors, il n'y a pas vraiment de spécificité du hardware, à part le mode portable, qui fait que ça simplifie peut-être les portages et qui vont... Un des défauts, je trouve, enfin, les journalistes, quand la Wii U est sortie, c'était « Ah, mais les jeux tiers, ils se servent pas des spécificités de la console. Ah. » En même temps, on s'en bat les couilles, les jeux ils sortent, c'est bien quoi déjà. Là, il y a moins de spécificités de la console, donc du coup, les jeux ils sortent et c'est bien. Mais je sais pas, les choix me paraissent curieux. Pourquoi par exemple, un FIFA 2016 est pas sorti déjà? Ça coûte rien comme portage.
Oui, je suis d'accord, et puis en plus, ça ferait de la vente, parce que ça permettrait de faire passer ceux qui veulent justement. En plus, un FIFA, putain, en multi, si on peut jouer juste avec un seul.
Carrément, mais enfin.
Un seul Balkan.
Honnêtement, même moi qui suis pas un fan de ça, je pourrais l'acheter, parce que je trouve que c'est. Franchement, je trouve. Avec des collègues au boulot qui sont plutôt des fans de FIFA, j'ai quelques collègues qui sont fans de FIFA, et honnêtement, je suis sûr que j'arriverais à jouer avec eux au boulot, alors qu'aujourd'hui, aller faire jouer à un Sniper Clips ou un jeu un petit peu intelligent comme ça, c'est pas la peine. Donc c'est un peu dommage.
Alors par contre, on me gueule dans l'oreillette, pas le FIFA 2016, 2017, c'est le minimum.
Oui, non, mais d'accord, ou 2018, mais je veux dire, le 2016, il aurait pu être porté au mois de mars ou d'avril, ça aurait pas coûté grand-chose, quoi.
En vrai, oui, totalement. Et pour revenir sur Payday, du coup, apparemment, il est à 5€ quand il est en solde, sans le DLC, par contre, quand il y a tous les DLC, il monte facile à 20-25€, apparemment.
D'accord, donc c'est peut-être pas... Enfin, s'il sort à 30€ sur Switch en version physique, c'est peut-être pas complètement délirant, quoi.
30€, ça me semblait pas mal, c'est un bon compromis. Et surtout, ça fera un mode portable, du coup, bon, c'est toujours ça de prix, on va dire, surtout en multi. S'ils arrivent à faire, parce que je crois que c'est que 4 justement le nombre de joueurs, s'ils arrivent
4.
À faire comme sur Splatoon 2, un mode où tu peux jouer à 4 avec 2 Switch en local, ça peut être vachement intéressant ça par contre.
Alors par contre ça je suis pas sûr, parce qu'avec 2 Switch je vois pas comment tu vas faire, à moins d'avoir 4 manettes complètes, parce que là t'es obligé de contrôler ta visée en plus.
Ah oui c'est vrai, merde.
Pour moi un mode local à 4 Switch à 4 joueurs, oui. Un mode local à 2 Switch avec éventuellement 2 bots, enfin 2 IA... dans ton équipe, pourquoi pas, parce que je sais qu'en ligne, de temps en temps, tu peux avoir un IA qui fait le dernier joueur.
Ouais.
Mais enfin, je sais pas, le... Pourquoi pas, mais le choix de ce jeu me paraît... Je sais plus qui est l'éditeur de PD2, ça m'a échappé. Mais je suis sûr que dans le catalogue de cet éditeur-là, il y avait quand même peut-être des choses plus intelligentes à porter, quoi. C'est mon impression. Je sais pas ce que... Ça me paraît quand même un choix extrêmement étrange. Bah, je vois bien que tu vérifies, parce qu'effectivement, j'ai vraiment plus le truc en tête.
C'est Overkill Software, le développeur. Et ça doit être... Il n'y a pas d'éditeur ?
Oh mon dieu. Alors en fait, c'est un jeu indépendant. Non, c'est peut-être ça en plus. Hein.
Ouais, en plus, bah, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre.
Ah merde. Mais mon dieu, mais c'est pas possible, là. Bon, donc du coup, c'est peut-être un peu plus cohérent. Et par exemple, on n'a toujours pas vu de jeu Activision Blizzard sur Switch.
Après, Blizzard, bon...
Bah ouais, mais les jeux Square Enix, alors si, il y a I Am Setsuma, mais on va dire que c'est un jeu qui était déjà sorti ailleurs. Donc,
ah si, l'éditeur, c'est 505 Games.
Ouais, donc c'est pas un gros éditeur.
Non, ça va être du Arma, ça va être... Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant.
Il y a Sniper Elite, il me semble que c'est eux aussi.
Oui, c'est ça. Par contre, il y a Terraria, mais Terraria, il va bien être porté
Terraria,
sur Switch.
Terraria, il va sûrement être porté sur Switch. Ouais. Tu vois, par exemple, 505 Games, ils ont sorti Sniper Elite 4 il y a peu de temps, sur PC et console.
Ouais, c'est
facile. Me semble-t-il, sur Unreal Engine 4. L'Unreal Engine 4, il est supposé tourner sur Switch. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas annoncé un portage de ce jeu-là? Ce serait plus cohérent, un portage d'un jeu qui a, je sais pas, 6 mois, quitte à faire peut-être un peu d'optimisation, plutôt qu'un jeu qui a 4 ans. C'est quand même un choix un peu étrange.
Même moche, hein.
Même, bon, oui, ben voilà. Même si le jeu est pas super optimisé, pourquoi pas? Je vois pas ce que ça... Mais non, les mecs décident de... Alors peut-être parce que c'est le seul jeu multi... C'est le seul jeu multijoueur qu'ils ont, parce qu'effectivement, Sniper Elite 4, il me semble que c'est un jeu uniquement solo. Il y a peut-être un mode multi, je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises. Mais c'est un jeu solo coopératif, enfin c'est un jeu comment multi coopératif à 4, donc du coup ils se disent que c'est bien adapté au concept de la Switch. Les gars, vous êtes un peu à la rue quoi. Voilà, bon, j'ai pas compris ce truc là. Donc je ne sais pas comment ça va tourner, mais ça me paraît étrange. Bref, il va peut-être être l'heure de nous quitter quand même, parce qu'il commence à se faire tard.
Il est déjà 22h, et puis c'est pas tout ça, j'ai des révisions à faire quand même.
Ah ouais, mais non, mais moi, il faut que j'aille dormir, hein. Je veux dire, à mon âge, c'est pas sain de se coucher après 21h30. Zergy non plus, d'ailleurs, on va aller le mettre au dodo, Zergy. Donc, on va se quitter, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, Zergy nous a appris un truc très intéressant au début d'émission, c'est que le 3 mai, donc mercredi dans 2 semaines, c'était l'anniversaire des 15 ans de la sortie du GameCube en Europe, donc je pense qu'on va faire une émission spéciale là-dessus, une petite rétrospective GameCube, parce que moi ça me fait très plaisir, c'est une de mes consoles préférées. Donc voilà, la semaine prochaine, je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire, mais il y a moyen que ce soit une rétrospective Mario Kart, donc du coup, si vous voulez de l'émission rétro, va y avoir de l'émission rétro. Voilà. J'en dis pas plus parce que je suis pas sûr du programme, de toute façon, quoi qu'il arrive,
comme
on
d'habitude.
Se retrouve dans une semaine. Je n'ai pas de citation du jour, je suis désolé. Alors voilà, je fais ce que je peux.
Si, Julien Chiez est un con. Ça marche bien.
Si, il rend l'argent.
Ah oui, c'est dimanche en plus.
C'est dimanche qu'il faut rendre l'argent. Voilà. Donc, on vous laisse, on vous fait plein de bisous partout. Ciao tout le monde.
Salut. Salut.
Et merde, j'ai pas envie de charger la musique de fin. Vite, meublé, meublé.
Da 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 da.
Ah, c'est bon, merci.